Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Pour notre étude d'aujourd'hui, je souhaite continuer et conclure ce que nous avons commencé la dernière fois, l'étude de la question de la spiritualité, inclue dans l'étude plus large que nous faisions du mouvement charismatique. Si vous êtes de passage, laissez-moi vous dire seulement que nous avons fait une interruption d'une étude cursive de 1 Corinthiens, et dans quelques semaines, nous reprendrons au 14e chapitre de 1 Corinthiens pour terminer le livre. Mais dans l'intervalle, parce que tant parmi vous se posaient des questions et avaient besoin de réponses, et parce que les anciens m'ont conduit à le faire, nous avons fait une étude du mouvement charismatique, tel que nous le voyons dans l'Église et dans le monde actuellement. Et cet aspect particulier du mouvement charismatique, la question de la spiritualité, est le sujet que nous avons débuté la semaine dernière et que nous allons continuer et terminer aujourd'hui. Vous souvenez-vous tous que la dernière fois, nous avons commencé cette étude sur la vraie spiritualité, parce que c'est un thème très important au sein du mouvement charismatique. Et plus largement, nous avons examiné une définition biblique claire de la vraie spiritualité, puis nous l'avons comparée avec ce que les charismatiques enseignent ou impliquent dans leur vue de la spiritualité. Et nous avons essayé de vous montrer la dernière fois ce que les charismatiques disent ou sous-entendent, bien que parfois ils ne veuillent pas le dire. Ils laissent assurément supposer par leur approche expérimentale de la vie chrétienne que si vous avez un certain baptême, ou que vous parlez en langue, ou vous avez une certaine expérience extatique, alors cela vous élève automatiquement à un autre niveau de spiritualité. Ma propre épouse a été élevée dans des milieux pentecôtistes charismatiques, et elle m'a dit que c'est assez général, que ceux qui ont eu l'expérience, et ceux qui ont eu les visions, et ceux qui parlent en langue, sont considérés comme des chrétiens d'un autre niveau, ou comme plus spirituels, et le reste sont comme laissés dans une autre catégorie d'une seconde classe. Et nous avons vu comment, lorsque vous atteignez une certaine expérience extatique, ou un certain baptême, ou autre, on pense automatiquement que vous êtes spirituel. Et nous avons montré que, comparé à l'Écriture, ce n'est simplement pas le cas. La Bible ne fait jamais cette connexion entre un don spirituel quelconque, ou une vision, ou n'importe quelle expérience avec la vraie spiritualité. Cette connexion n'est pas faite bibliquement. Et nous avons vu l'autre fois que la vraie spiritualité résulte non d'une expérience, ni d'un don, ni rien de semblable, mais elle résulte d'une marche dans l'esprit, moment par moment. C'est là la question réelle. La vraie spiritualité est le résultat d'une marche dans l'esprit. Et nous avons montré que la vue charismatique d'une sorte de spiritualité spectaculaire, expérimentale, instantanée, ne peut simplement pas être soutenue bibliquement. Donc la spiritualité, disions-nous, c'est marcher dans l'esprit, ce qui implique deux choses. Voyons si vous vous en souvenez, recevoir la parole de Dieu et la vivre dans l'obéissance. Et lorsque nous recevons la parole et la vivons en obéissant, c'est là que nous marchons dans l'esprit. Voilà la vraie norme biblique. De plus, nous avons vu que la vraie spiritualité n'aboutit même pas nécessairement à une expérience. Elle n'a pas pour résultat quelque extase, ou quelque vision ou révélation, ou quelque chose de surnaturel. Mais les résultats de la vraie spiritualité sont réellement des grâces du cœur. Parce que dans Galates 5, au verset 22, il est dit que le fruit de l'esprit est, non les dons et les langues, et les signes ou miracles, mais le fruit de l'esprit est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les vrais fruits de l'esprit. C'est ce qui est réellement produit lorsque la vraie spiritualité existe. Et les charismatiques voudraient prétendre que la vraie spiritualité est basée sur l'expérience. Et les résultats de plus grandes expériences ne s'accordent pas avec les Écritures. Donc, nous devons revenir à ce que la Bible enseigne. Maintenant, je voudrais que vous preniez votre Bible, comme nous commençons aujourd'hui, et que vous regardiez avec moi au psaume 85, parce que le psaume 85 nous fournit un texte très utile pour évaluer la vraie spiritualité, ou un vrai réveil spirituel. C'est un test qui nous permet de juger la vraie spiritualité. Mais vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens chapitre 3, que Paul avait dit aux Corinthiens, « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Autrement dit, je dois vous traiter comme des charnels. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas recevoir la parole, et qu'il y a des divisions et des discordes, etc., parmi vous. En d'autres termes, deux choses manquaient à Corinthe. Ils ne recevaient pas et ne pouvaient pas recevoir la parole. Ils ne la vivaient pas. L'absence de ces deux choses signifie qu'on est charnel. À l'inverse, la présence de ces deux choses signifie spiritualité. Donc la spiritualité, c'est recevoir la parole de Dieu et la vivre dans l'obéissance. C'est la base. Or, nous voyons cela au psaume 85. C'est essentiellement une prière pour un réveil. C'est une prière pour qu'une vraie spiritualité existe parmi le peuple. C'est une plaidoirie du psalmiste adressée à Dieu pour amener un vrai réveil de spiritualité. Et le verset clé serait le verset 6. « Es-tu irrité contre nous pour toujours ? Ta colère durera-t-elle de génération en génération ? Ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» En d'autres termes, Dieu, nous avons eu notre châtiment. Nous avons traversé l'exil. Nous avons eu cela. Et, ô Dieu, nous désirons un réveil. Nous voulons voir ta main de grâce. Nous désirons qu'une vraie spiritualité prenne la place de la désobéissance qui avait apporté la punition. Et donc, c'est une supplication pour un vrai réveil. Une supplication pour qu'une sainteté authentique saisisse les cœurs du peuple de Dieu. Et une telle supplication révèle les éléments de base d'un réveil. Les 8 premiers versets constituent en quelque sorte la prière pour un authentique réveil. Puis dans les versets 9 à 14, vous voyez ces éléments. Nous n'allons pas les étudier en entier, mais laissez-moi juste vous montrer les deux choses qui font un vrai réveil. Verset 12. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. Or, vous avez ici deux phrases. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. Il y a deux choses qui accompagnent toujours un vrai réveil. La vérité et la justice, toujours. Voilà les questions. Vérité et justice. Et ces deux choses sont vraiment un thème de cette conclusion. Vous voyez la mention de justice au verset 11. Vous voyez la mention de justice marchant devant Dieu, et il vous mettra sur le chemin de ses pas. Au verset 13. Donc la justice fait intégralement partie de la vraie spiritualité, ou du vrai réveil. La sainteté et la justice, notez-le, accompagnent toujours l'œuvre de l'Esprit. C'est très fondamental. Dans Ézéchiel, pour vous en donner une illustration, au chapitre 36 d'Ézéchiel, il y a beaucoup d'illustrations, mais celle-ci peut être utile. Ézéchiel 36 au verset 27. « Écoutez seulement, c'est mon esprit que je mettrai en vous. » Très bien, c'est une grande promesse de spiritualité future. « C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Et maintenant, regardez ce qui arrive. « Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Donc écoutez, vous voyez qu'une vraie spiritualité, le résultat de la réelle œuvre de l'esprit, n'est pas une extase, ce n'est pas une sorte de révélation, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une expérience, c'est l'obéissance à la justice, voyez-vous, c'est marcher dans la vérité de Dieu, c'est marcher dans ses commandements, c'est garder ses règles et les pratiquer. Le verset 31 du même chapitre dit « Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Maintenant écoutez, mes amis, la vraie spiritualité résulte en la justice ou la sainteté, et c'est une réalité à deux parties. D'une part, c'est l'observation des commandements de Dieu, et d'autre part, c'est haïr et mépriser et avoir le dégoût du péché. Et là où il y a une vraie spiritualité, il y aura aussi cette recherche de la justice qui apporte avec elle une profonde crainte et un sens de conviction quant au péché. C'est quelque chose que je ne vois pas dans ce qui se passe aujourd'hui, au nom de la spiritualité dans le mouvement charismatique dans bien des cas. Il y a beaucoup de rire, de plaisir et beaucoup de joie, et beaucoup de frivolité extérieure, mais je ne sais pas si je vois ce qui accompagne une spiritualité réelle qui est un sens brûlant de conviction de péché et la recherche d'une vraie sainteté dans un désir d'obéir aux commandements de Dieu et d'y marcher. Voilà la vraie spiritualité. C'est le cœur du problème. Ceux qui sont remplis de l'esprit recherchent la justice avec un sens brûlant de conviction de péché, de sorte que là où l'esprit est à l'œuvre, il y a de la joie. Mais il y a aussi une profonde tristesse. C'est le cœur de la vraie spiritualité. Quand l'Esprit de Dieu est venu à la Pentecôte, il est dit que des milliers de personnes eurent le cœur vivement touché, et dans la misère de leur culpabilité, ils crièrent « Que ferons-nous ? » Et je ne crois pas qu'aucun chrétien puisse vivre dans ce monde sans une profonde peine causée par sa propre détresse et son propre chagrin et son propre péché. Et quand la puanteur de l'immoralité remplit ses narines, l'homme rempli de l'Esprit ne peut simplement pas être heureux, heureux, heureux tout le temps. Et vous savez quoi? Parfois, cela ne s'accorde pas avec ce que je vois faire au nom du Saint-Esprit. Comme un auteur disait, « Il n'est pas le joyeux esprit, il est le Saint-Esprit. » Et je crains lorsque je regarde certaines chaînes à la télévision et que je vois cette frivolité et cette superficialité et cette joie, joie, joie tout le temps et ces sourires constants et tout est si merveilleux qu'ils ne comprennent pas deux choses. 1. Le sens profond de la conviction de péché. Et 2. La perdition du monde alentour. Sinon, il ne pourrait pas être dans la joie, joie, joie tout le temps. L'apôtre Paul disait « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » C'est équilibré. Certainement qu'il y a de la joie, mais la joie est tout au fond. Et très souvent, ce qu'il y a à la surface est la douleur de la culpabilité et le péché et la préoccupation. Et je crois que si nous voyons un vrai réveil dans notre pays, je crois que si c'était une vraie spiritualité que nous verrions dans ce supposé mouvement charismatique, il faudrait que cela vienne de l'esprit. Si c'était une réelle spiritualité, il y aurait des gens qui pleureraient comme Christ a pleuré. Il y aurait des flots de larmes causés par le Saint-Esprit. Au lieu de nos applaudissements, je crois que nous frapperions la poitrine et des lamentations rempliraient les rues comme elles ont rempli les rues de Ninive le jour où Jonas a prêché et où l'Esprit de Dieu a apporté un vrai réveil. Je ne vois pas de vrai réveil dans le fait de se tourner vers Jésus par un trip branché. Je vois un vrai réveil comme quelque chose qui pousse un homme à se frapper la poitrine en ressentant profondément son péché et à rechercher la sainteté. Walter Chantry dit « On ne peut pas dire que tous ceux qui rejoignent les rangs des charismatiques le font avec un désir de connaître Dieu et d'avancer dans une vie de pureté. Beaucoup recherchent au plus de Dieu de les libérer des problèmes terrestres. Là où l'on prête l'attention la plus grande aux dons proprement dit, on suggère que l'Esprit va guérir tous les maux et aplanir toutes les aspérités sur le chemin de la vie. Cela n'est pas plus évident ailleurs que dans l'accent mis sur la guérison. L'impression faite sur le croyant moyen par le plein évangile est que Dieu ne veut pas que son peuple souffre dans ce monde. Il suffit que les chrétiens croient des hommes remplis de l'Esprit pour qu'ils soient guéris de tout. Les souffrances sont présentées comme mauvaises et indésirables pour le chrétien. Voici la vie édulcorée qui garantit d'expulser tous les goûts amers, et tandis que beaucoup parlent d'exciter leur esprit en Jésus et d'exploser dans les expériences de l'esprit et de trouver le bonheur, nous n'avons que trop peu entendu parler d'un sobre intérêt dans la sainteté. Il a raison. Nous ne sommes pas qu'un paquet de gens recherchant le bonheur. Vous voyez, là où il y a un réveil, il y aura la recherche de sainteté, de justice. Il y aura une profonde et brûlante conviction de péché et un désir dévorant d'obéir aux commandements de Dieu. C'est la part que je vois manquer. Les vrais croyants ne cherchent pas une vie édulcorée. Ils confessent avec David au psaume 119, verset 71. « Il est bon pour moi d'être humilié. » La spiritualité n'est pas des expériences, des signes, des miracles et joie, joie, joie. Elle peut être plus proche de l'opposé. Charles Spurgeon disait « Les plus grandes bénédictions terrestres que Dieu puisse donner à chacun de nous est la santé, à l'exception de la maladie. » J'aime ça. « La maladie a souvent été plus utile au sein de Dieu, dit-il, que la santé. Si quelques hommes que je connais pouvaient seulement être favorisés par un mois de rhumatisme, par la grâce de Dieu, cela les adoucirait merveilleusement. Je ne souhaiterais à personne une longue période de maladie et de douleur. Mais une foulure ici et là, on pourrait presque la demander, une épouse malade, une tombe fraîchement creusée, la pauvreté, la calomnie, la dépression, pourraient enseigner des leçons que l'on ne peut apprendre nulle part ailleurs aussi bien. Les épreuves nous conduisent vers les réalités de la piété. Nos afflictions nous viennent comme des bénédictions, bien qu'elles soient orageuses comme des malédictions. Il a raison. Vous voyez, là où il y a une vraie spiritualité, où il y a un vrai réveil, la justice se penche du haut des cieux, et Dieu conduit son peuple sur les pas de la justice. Pas de vertige, pas de bonheur, pas de frivolité, de la justice, de la sainteté, de la vraie spiritualité. Et le second élément de la spiritualité dans le psaume 85 est celui dont je vous ai parlé aussi la dernière fois, est au verset 12. La vérité germe de la terre. Le second élément d'un vrai réveil est que la vérité, soudain, vient de partout. Il y a un grand et profond engagement pour la vérité. Le second principe pour mesurer l'œuvre de l'esprit est la vérité. Après tout, il est appelé dans la Bible l'esprit de quoi ? L'esprit de vérité. Et là, où il y a un vrai réveil, on reçoit la vérité. On la vit dans une conduite de droiture. C'est cela, les amis. Et cela n'a rien à voir avec les dons et les signes et les extases, les miracles et les visions ou les révélations. Lorsqu'ils ont eu le réveil, au temps de Néhémie, Néhémie chapitre 8, verset 1, Néhémie dit « Apportez le livre ». Et lorsqu'ils apportèrent le livre, le réveil a commencé. Et il ne commencera jamais autrement, à n'importe quelle époque. Et vous ne pouvez pas avoir, avec une fausse doctrine du Saint-Esprit, un peuple produisant une réponse correcte à l'Esprit. Vous ne pouvez pas avoir de vraie spiritualité avec une fausse théologie. Vous avez la vérité germant de la terre, puis la justice descendant du ciel. C'est ce que le psaume 85 dit. Et la vraie spiritualité aura ce sens profond de respect de la parole de Dieu et une profonde conviction de péché et un désir d'une vie sainte. L'explication biblique, l'instruction biblique sont l'œuvre de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous. Ces deux passages parallèles, vous les connaissez si vous les avez étudiés. Être rempli de l'Esprit revient au même que laisser la parole demeurer en vous. Voyez-vous, vous recevez la parole, vous la vivez. Une vraie spiritualité. Rien à voir avec une quelconque expérience charismatique. Donc, qu'avons-nous appris ? Que je résume. Nous avons dit la dernière fois que tous les croyants ont un statut spirituel. Nous avons dit que les chrétiens ne le vivent pas tous pratiquement, mais que Dieu souhaite que nous vivions selon un style de vie spirituel, qui est un style de vie où nous recevons la parole de Dieu et où nous lui obéissons, et que le but final de la spiritualité est d'être comme Jésus-Christ, et que cela n'a rien à voir avec un don ou une expérience ou un baptême ou un sentiment. Le résultat est l'obéissance. Le résultat, ce n'est pas accomplir les désirs de la chair. Il rend le chrétien humble et doux plutôt qu'orgueilleux. Il donne un sens profond d'insuffisance et de la misère du péché. Il produit un engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Il équilibre sa joie avec sa conviction de péché. Et c'est cela la vraie spiritualité. C'est ce que Dieu veut voir. Je vois beaucoup de soi-disant réveils en Amérique, mais ils n'ont pas ces caractéristiques. Maintenant, je voudrais ajouter une remarque très importante pour conclure notre thème de la vraie spiritualité. Et c'est très important. Et je veux que vous m'entendiez le dire. J'ai attendu longtemps pour dire cela, longtemps, parce que les charismatiques ont une optique fausse de la spiritualité. Ils sont tombés dans le problème d'élever les mauvaises personnes, voyez-vous. En d'autres termes, là où vous faites de l'expérience le critère, plus l'expérience est excitante, plus les chances vont être grandes que vous deveniez un super saint, vous voyez. Et les personnes vraiment spirituelles, dont certaines, je suis sûr, sont dans le mouvement charismatique, ceux qui sont vraiment spirituels, qui reçoivent la parole du mieux qu'elle leur a été donnée, et du mieux qu'ils la comprennent, et qui vivent en obéissant du mieux qu'ils peuvent, et ceux qui sont vraiment spirituels dans le reste de l'Église, qui reçoivent la parole et qui la vivent, voyez-vous. Ils sont repoussés à l'arrière-plan, parce qu'ils n'ont rien à dire, parce que dans un monde d'expérience, où l'expérience est tout, ceux qui montent au sommet sont ceux qui ont l'histoire la plus frappante à raconter, vous voyez. Ce sont donc les mauvaises personnes qui sont élevées. Et si vous avez une histoire excitante à raconter, vous serez à l'avant, vous serez à la télévision, vous écrirez un livre, vous occuperez toute la scène, particulièrement s'il se trouve que vous êtes également célèbre. Si vous ajoutez à votre expérience une certaine dose de notoriété, vous serez au top. Et c'est réellement triste. Nous avons créé tout un tas de célébrités chrétiennes. Je les appelle des saints superstars. Ils sont devenus les modèles et les porte-paroles et les autorités pour le christianisme. Un culte de la célébrité a commencé. Vous savez, je croyais que nous avions tiré notre leçon. Il y a bien des années, l'Église a fait cela avec des gens de Hollywood. On prenait tous ceux qui avaient été sauvés dans le groupe chrétien de Hollywood et automatiquement, on les a affichés comme grands, grands propagateurs de la foi chrétienne. Et ils donnaient des témoignages et chantaient. Ils apparaissaient ici et là et c'était une grosse affaire. C'était réellement dramatique. Nous avions un homme dans notre église qui était cela, un homme star fabriqué, orateur fabriqué, un chrétien célèbre, qui voyageait beaucoup, qui disait toutes sortes de choses. Il avait de nombreuses références, et le reste. Sa vie a dégringolé. Il est venu ici, il avait environ 42 ans. Il a amené sa famille, il est passé dans l'ombre, dans un sens, est venu ici, et il a appris la parole de Dieu. Il n'était ici que depuis un an, puis il est mort d'un cancer en phase terminale. Et je me suis assis à côté de lui à l'hôpital, alors qu'il toussait en agonie. Et il a dit, « John, c'est terrible ce qui est arrivé dans ma vie, c'est terrible, c'est une tragédie. Ils ont démoli ma vie, en exploitant mon témoignage, parce que j'étais quelqu'un de connu. Vous voyez, c'est quelque chose de tragique. J'ai pensé qu'on avait appris, mais non, cela continue, et nous avons les mauvaises personnes au sommet, et nous mettons des podiums pour être les porte-paroles du christianisme. » À la place des personnes vraiment spirituelles. Les émissions spéciales programmées maintenant par des personnalités chrétiennes font figurer une série permanente de superstars chrétiennes. Lorsque l'un d'entre eux est sauvé, oh là là, on fait la queue pour les réserver, pour leurs gros événements. J'écoutais une annonce. Le pasteur disait, « Nous commençons une nouvelle église. » Et voici ce qu'il a dit, et je cite, « C'est une église fondamentaliste, qui gagne des âmes, qui croit la Bible. » Et nous nous réunirons à Costa Mesa. Et ce dimanche, notre vedette spéciale est... Et il a dit son nom. Et j'ai pensé, qu'est-ce que c'est que ça? Votre vedette spéciale. Une autre église avait une star chrétienne qui a facturé $5,000 par nuit pour venir partager leur témoignage. Plusieurs reçoivent $5,000. Et comme ils voulaient ce superstar, alors ils ont vendu des billets pour le culte du dimanche soir. Vous savez, il existe plusieurs agences de publicité dont j'ai des nouvelles, mensuellement, qui m'envoient la liste de qui est disponible, et le prix s'échelonne de 500 à $5,000 la nuit, si on veut un chrétien célèbre. Tout ce qui me vient à l'esprit est dans 1 Timothée 5, verset 17, que si vous donnez beaucoup d'argent à quelqu'un, savez-vous à qui? Il est dit que les anciens qui dirigent soient bien jugés, dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qui Dieu absout-il? C'est différent de ceux pour qui nous le faisons. Une église baptiste du Midwest, que je connais, a une salle chrétienne de célébrité. Et dans leur salle chrétienne de célébrité, dans le foyer de l'église, ils ont les photos des 10 meilleurs chrétiens du moment. Ce sont leurs superstars. C'est vrai, des revues chrétiennes montrent des stars convertis, des chanteurs, des athlètes et des politiciens. Et ils les transforment en célébrités, à qui on permet de prêcher dans tout le pays. C'est un vaste marché. Celui qui s'est répandu une certaine année a été lancé en listant les 48 stars chrétiennes avec qui vous pouviez prier. Vous voyez ce qui est triste là-dedans, mes amis. C'est que tout cela a mis la célébrité à la place de la spiritualité. Ceux qui dirigent l'Église ne sont pas censés être ceux qui sont les plus célèbres. Ils sont censés être ceux qui marchent dans l'Esprit et qui ont reçu de Dieu la responsabilité de diriger. Je le vois spécialement dans la musique. Dans les milieux chrétiens, plus de personnes deviennent célèbres par la musique que par toute autre chose. Et l'Église dépense des fortunes pour remplir les coffres-forts de tous ces gens. De la mentalité superstar, super-saint, ont surgi de très dramatiques résultats, manifestés dans les milieux charismatiques et au-delà. Je peux vous raconter environ 5 cas que je connais, qui y ont plongé, puis sont ressortis, aussi subitement par la porte de derrière, de leur foi en catastrophe. De telles célébrités se mettent à vous raconter leur expérience, leur conversion fantastique, ou leur baptême fantastique, ou leur vision, ou autre chose, et on les fait connaître. Et ils sont poussés ici et là, pour promouvoir ceci et cela. Et bientôt ils parlent, ils écrivent des bouquins, ils font des interviews, ils apparaissent à la télévision et à la radio. Ils sont salués comme de grandes autorités spirituelles. Et savez-vous ce que la Bible dit dans 1 Timothée? Elle dit, « Si quelqu'un vient de se convertir, ne le laissez même pas servir aux tables dans l'église. C'est exact. Vous voyez, on ne leur rend aucun service. Tout est détraqué. Lisez 1 Timothée 3, verset 6 et 10, ainsi que 1 Timothée 5, verset 22. Tout est là. Roger Heidelberg a écrit un article dans un numéro du Moody Monthly, magazine chrétien mensuel. Et s'il ne l'avait pas écrit, je l'aurais fait. Il est intitulé « Cessons de tirer profit des convertis ». Voici ce qu'il dit. Supposez que Paul ait été converti en 1977 sur la route US 60 vers Denver. L'expérience de sa conversion aurait-elle pu se développer jusqu'à ce qu'il devienne l'enseignant de doctrine chrétienne, le plus puissant que l'Église ait jamais connu? Voyons un peu. À peine l'œuvre d'une si dramatique et remarquable conversion aurait-elle frappé les canaux et associations de presse, que du personnel de revue People, de théâtre et de télé, des photographes de journaux et des producteurs de radio auraient dévalé vers Denver en foule. Lorsque les écailles sont tombées des yeux de frère Saul, il aurait vu sa chambre remplie de ces gens. L'homme de Christian Star Magazine aurait bataillé pour obtenir un article exclusif contre un éditeur associé à Time Magazine. Le directeur du programme Avonlea Light, Lumière Céleste, aurait essayé de gagner contre les arguments de l'agent de Meet the Press, rencontre avec la presse. Dans un coin, Ananias, servant d'agent pour Saul, prépare les contrats. Avant le premier coucher de soleil de la nouvelle vie de Saul, il aurait été programmé pour apparaître dans chaque télévision chrétienne et réseau de radio qui pouvait l'accueillir. Dans le temps le plus court possible, il se serait trouvé réservé pour des mois et même des années à l'avance, comme l'attraction de l'Évangile, qui fait les grands titres et rassemble toute la chrétienté, des campagnes d'évangélisation, des mouvements de jeunesse, même des conférences bibliques. Voyez les calicots qui disent « Un grand rabbin raconte comment il s'est tourné vers le Christ. Écoutez un juif connu dans le monde entier prêcher Jésus. Saul de Tarse convertit. Un pharisien prêche son célèbre sermon. Du Sanhédrin au Sauveur. » Que votre quotidien du matin porte l'histoire que Gloria de Goldilocks, comédienne étoile sur scène et à l'écran, est entrée en religion, comme ils disent, et en une semaine, le même journal annoncera sa prochaine apparition dans l'heure de réveil national des Pearly Gates, porte du ciel, ou son affiliation à l'Église de l'Évangile de l'ère atomique. Nous ne faisons pas de distinction non plus. Des sportifs de première ligne, des leaders de groupes de danse, des contrebandiers de l'alcool, des barons du crime, chacun fera l'affaire pourvu que le nom soit assez fameux pour bien attirer, et bien entendu, pour que la conversion semble authentique. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. Chaque fois qu'une célébrité du show business, de la politique ou du crime organisé invoque sincèrement le Seigneur pour être sauvé, nous nous réjouissons, plus que les anges même. Le problème est dans notre habitude de projeter des célébrités converties dans les premiers rangs du christianisme évangélique, bien avant qu'ils aient démontré qu'ils sont spirituellement qualifiés pour y figurer. Pourquoi notre Gloria est choisie pour l'heure de l'émission Porte du Ciel ? Parce qu'il voulait que l'esprit baigne le message qu'elle était capable d'apporter, ou bien cause de la valeur des grands titres de l'ancienne star Gloria Goldilocks, la présentation des Écritures ou l'exploitation de la célébrité. On peut dire bien peu de choses pour défendre ceux qui exploitent ces convertis célèbres, pour servir nos propres intérêts essentiellement égoïstes. Mais qu'en est-il néanmoins de ceux qui sont utilisés ? Quel sera le résultat de tout cela dans leur vie ? Dans la frénésie de la course d'une réunion d'évangélisation à une autre, il reste peu de temps pour permettre à leur expérience de conversion de prendre racine et mûrir en un témoignage enrichissant et débordant. En conséquence, ces convertis feront probablement du mieux qu'ils pourront, glanant quelques phrases pieuses populaires, les rassemblant en un témoignage qui coule bien, mélangé avec une histoire de ma conversion, et tout est prêt pour le spectacle. Ils répètent constamment leurs textes, jusqu'au moment où toute la brillance de cette conversation disparaisse. Sans rien de nouveau pour la remplacer, ils deviennent des comédiens impuissants, disant les mots justes qui se posent plaisamment et tout à fait inefficacement sur des consciences non convaincues. C'est triste que nous nous soyons mis à élever les mauvaises personnes. Vous savez, si vous dites « Ce soir nous allons voir une étude biblique, le pasteur parlera, rien ne se passe. Ce soir, nous allons recevoir la superstar, une telle, La salle est remplie à craquer. Vous voyez, toutes les règles sont faussées. On mélange les priorités. Et vous savez, nous avons même atteint le lieu dans le christianisme actuel où nous authentifions notre foi sur la base des personnalités qui la croient plutôt que sur l'apologétique biblique. Le saviez-vous? Nous défendons publiquement le christianisme sur la base du témoignage de quelqu'un qui le croit. Ils écrivent les livres. Ils donnent leur témoignage. Ils racontent leur expérience. Ils apparaissent à la télévision. À quand remonte la dernière fois où vous avez vu un programme spécial de télévision où l'on disait « Et maintenant, nous allons entendre le pasteur un tel, qui est de l'église XY, et il va vous montrer pourquoi le christianisme est vrai, à partir de la parole de Dieu. Vous l'entendez ? Jamais entendu ça. Et maintenant, voici, suit toute la fanfare et le témoignage. Vous voyez, je ne suis pas contre leur témoignage. Je ne suis pas contre le fait qu'ils sont convertis, j'en loue Dieu. Mais l'essentiel est que le christianisme n'est pas vrai parce qu'ils le croient. Le christianisme est vrai parce que la Bible dit qu'il l'est, et quelqu'un doit enseigner cela. Nous ne pouvons pas continuer d'authentifier la vérité sur la base de personnalité. Avez-vous remarqué que les sectes ont commencé à faire la même chose, et maintenant, elles ont leurs superstars défendant leur vue dans des publicités. Vous engagez des gens, et c'est comme ça qu'ils vendent du café. C'est la manière de vendre du jus d'orange. C'est ainsi que l'on vend des voitures. C'est ainsi que l'on vend tout ce qu'on vend. Et c'est ainsi qu'on vend le christianisme. Des célébrités le vendent. Cela entretient un christianisme centré sur l'expérience. Je l'ai expérimenté. Il satisfait réellement. C'est génial. Pourquoi ne l'expérimenteriez-vous pas? Et vous échafaudez toute une approche expérimentale de la foi, plutôt que de dire « C'est vrai. C'est pourquoi il est juste que vous l'acceptiez. » L'apôtre Paul allait partout et raisonnait avec ses interlocuteurs à partir des Écritures. Et il leur prouvait pourquoi Jésus devait souffrir et pourquoi il est mort. Et lorsque Jésus marchait sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24, il n'a pas dit aux disciples « Maintenant, je veux que vous croyiez tout cela. Donc je vais vous raconter quelques magnifiques témoignages de certaines personnes célèbres qui ont cru. » Il a commencé comme Moïse et les prophètes et leur a enseigné les choses rapportées dans l'Écriture. Que c'est tragique lorsque nous laissons l'expérience être la défense. J'ai dit à un éditeur, vice-président d'une maison d'édition en Amérique, « Quand allez-vous cesser de défendre le christianisme sur la base des témoignages de célébrités et vous mettre à sortir des livres qui le défendent sur la base de l'autorité biblique ? Voyez-vous, on continue à laisser aller cette spiritualité charismatique, expérimentale, et on a tous ces gens qui se tiennent là, comme s'ils étaient les leaders spirituels de l'Église. Ils sont les permanents. Ils sont ceux qui ont les foules. Et le fait est que, dans beaucoup de cas, ils pourraient bien ne pas être vraiment spirituels. Nous devons tenir ferme sur la parole et défendre notre foi par la parole. Nous devons écouter les enseignants doués et les théologiens doués et les personnes saintes. Ce sont eux qui doivent parler. Écoutez, l'Église du Nouveau Testament n'avait aucune superstar. Elle n'avait aucune célébrité. Elle n'avait aucun média. Il n'avait aucun truc de l'avenue de Madison, pas de radio ni de télévision, et elle a eu un impact sur son monde alentour, strictement sur la base de gens pieux, vivant dans une société impie. Et vous savez ce que Paul a dit aux Corinthiens ? Il a dit « Pas beaucoup de nobles et pas beaucoup de puissants. C'était juste des gens normaux, mais tout le christianisme est allé sur la place du marché, et nous avons adopté le monde. » Nous vendons le christianisme comme on vend des cigarettes, comme on vend du café, comme on vend des haricots, comme on vend n'importe quoi. Nous sommes des marchands ambulants, dit Paul dans 1 Corinthiens. Larry King a écrit un article dans le New Time Magazine du 3 septembre 1976. C'est un non-chrétien, cynique, et je voudrais que vous entendiez son évaluation du christianisme actuel. Je ne suis pas très versé dans le mouvement de Jésus. Une particularité qui m'écarte apparemment du courant culturel principal ces jours-ci. Le business de Jésus n'est plus réduit aux confins du whisky de contrebande. Vous ne pouvez pas traverser le parc de Washington Square à Greenwich Village sans trembler, car des prophètes aux yeux exorbités déversent sur vous de la rhétorique doucereuse concernant Jésus. La plupart d'entre eux n'ont pas la moindre idée de ce dont ils parlent. Je suis un vieil étudiant biblique, élevé parmi les baptistes qui pratiquaient le lavage des pieds. Et je suis simplement effaré de voir combien peu de disciples de Jésus qui me sollicitent connaissent le Saint-Esprit. Ils ne sont pas plus informés sur l'histoire des religions, chrétiennes ou autres. mentionner les saintes guerres ou poser des questions sur comment la version King James de la Bible a eu le dessus face à ses rivales, et tout ce que vous obtenez est un regard vague et l'assurance générale que Jésus vous aime. Non, ma plainte n'est pas contre Jésus, mais contre ceux qui utilisent mal ce qu'il représente. J'en ai eu mon compte de coach de foot de collège, priant en son nom pour la victoire, de Lions Club l'implorant de bénir leur vente annuelle de ballet, de John Bircher le suppliant de garder un œil sur les Nord-Coréens et de criminels à col blanc qui se réclament de leur conversion alors que des portes de prison les guettent dans leur avenir. Je suggérerais humblement que peut-être un Jésus qui travaille, ainsi qu'un papa superviseur, serait mieux occupé à démêler de plus grandes injustices et qu'il n'a vraiment pas besoin du babillage de prières égoïstes. Je ne prétends pas savoir si Jésus aurait souhaité cela, mais personnellement, je pense qu'il est plus futé que beaucoup de ses agents. Vous savez, lorsque j'ai lu cet article, il m'a réellement fait mal. Il m'a vraiment blessé, voyez-vous. Quelle sorte de christianisme ce type voit-il? Où est la sainteté là-dedans? Où est la justice ici? Où sont les personnes pieuses dans cette situation? Tout ce qu'il voit est le christianisme de Madison Avenue. Tout ce qu'il voit, ce sont les trucs et les astuces. Tout ce qu'il voit est la partie bon marché, et il passe à côté de l'essentiel. Où celui-ci a-t-il disparu? Vous voyez, on a tout détraqué, mis les choses fausses au mauvais endroit. Nous disons « mais ça marche ». J'entends, c'est ce que certains me disent lorsque je parle. Je parle ainsi à d'autres parfois, et ils disent « mais ça marche, regardez les résultats, regardez les résultats ». Les gens viennent, des foules viennent et nous prêchons, et les gens sont sauvés. Il n'y a pas de mal. Regardez les résultats. Vous savez quoi? Les résultats ne signifient rien pour moi dans ce sens. Que voulez-vous dire? Écoutez ceci. Nombre 20, verset 11. Ne le cherchez pas, parce que je vais seulement vous parler un instant. Nombre 20, verset 11. Dit que Dieu a dit à Moïse de faire quoi? Parler au rocher. Vous souvenez-vous de ça? Mais au lieu de parler au rocher, que s'est-il passé? Moïse a pris un bâton et il a frappé le rocher. Et vous dites, Moïse, tu as désobéi. Correct. Absolument correct. Et vous savez ce qui est arrivé lorsqu'il a frappé le rocher? Il a eu des résultats. L'eau est sortie. Les résultats ont-ils rendu juste ce qu'il a fait? Vous ne pourriez pas en convaincre Dieu, parce que Dieu ne l'a jamais laissé entrer dans le pays promis. Il l'a perdu, parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a eu des résultats dans sa désobéissance. Ce n'est jamais un critère, jamais. Ce que Dieu veut, ce sont des résultats selon l'obéissance. Les résultats peuvent venir dans la désobéissance. Mais cela ne change pas le fait que la désobéissance est toujours de la désobéissance. Donc nous disons, eh bien cela donne des résultats, mais cela ne prouve rien du tout. Qu'arriverait-il si nous agissions à la manière de Dieu? Nous n'allons pas découvrir sa façon de faire de sitôt. Qui sont les authentiques dirigeants du christianisme? Qui a vraiment le droit de donner le rythme à l'Église? Vous voyez, si nous faisons de l'expérience la norme de la spiritualité, alors n'importe qui, avec n'importe quelle expérience, est poussé vers les feux de la rampe, et spécialement s'ils sont célèbres. Et nous avons une qualité Madison Avenue de christianisme. Plus ton expérience est folle, plus rapidement les éditeurs vous poursuivront pour la faire imprimer, et les fidèles et pieuses personnes sont assises à l'arrière-plan, et leur travail, avec ce qu'elles peuvent avoir, pendant que ces gens-là s'enrichissent de leur expérience. Mais peut-être que cela paraît un peu amer. Eh bien, ce n'est pas mon intention. Je veux seulement m'adresser à l'esprit du temps. Qui sont les leaders? Est-ce que ce sont les néophytes, ex quoi que ce soit? Les célébrités, les personnalités, ou les personnes vraiment spirituelles et fidèles? Maintenant, je voudrais vous dire ceci. C'est la chose la plus importante que j'ai dite. Oubliez tout ce que j'ai dit, mais souvenez-vous de ceci. Regardez à 2 Corinthiens, chapitre 10. Je vais vous dire ceci parce que j'ai attendu longtemps pour le dire. Maintenant, je veux que vous l'entendiez bien. 2 Corinthiens 10, 11, 12 et 13. Les quatre premiers chapitres de 2 Corinthiens sont la plus claire indication dans toute l'écriture de cette idée que vous pouvez devenir spirituel par une expérience ou que vous êtes qualifié pour être un conducteur spirituel parce que vous avez eu une expérience. Ces chapitres réellement parlent de cela. Maintenant, laissez-moi décrire la scène. C'est une section fascinante, mais écoutez, ville de Corinthe. Paul, bien sûr, avait fondé l'Église. Lui avait écrit plusieurs lettres, avait eu un ministère dans leur vie. Mais entre-temps, quelques nouveaux apôtres, super chauds, étaient arrivés en ville. Au chapitre 11, verset 5, Paul les appelle des super apôtres. Super apôtres. Ils étaient arrivés en ville et disaient, « Hé, les amis, nous sommes la nouvelle espèce. Voyez, Dieu fait une nouvelle œuvre. Un nouveau réveil perce. Le vieux truc doit disparaître. C'est le nouvel âge. Vous voyez, ils arrivaient avec tout le Bataclan. C'était le mouvement charismatique de deux Corinthiens. Ces types sont venus en ville. Ils étaient les nouveaux super apôtres. Ils se recommandaient eux-mêmes, comme du feu de Dieu. Au chapitre 10, verset 12, Paul dit qu'ils se recommandent eux-mêmes. Chapitre 10, verset 18, il fait référence au fait qu'ils se recommandaient eux-mêmes. Ils vinrent en se donnant à eux-mêmes des claques dans le dos et en disant, « Nous sommes les nouveaux prophètes, nous sommes les nouveaux apôtres, nous sommes les nouveaux outils et instruments de Dieu, et nous sommes venus en ville. » Et ils avaient des expériences et des visions et des extases. Et ils avaient des charismes et du charme. Et ils avaient tout. Donc ils sont venus et ont inondé l'église corinthienne, les bousculant et en disant simplement, « Et voilà les amis, ça y est, ceux-là sont de super apôtres. » Et ils ont remis en question la spiritualité de Paul. Naturellement, s'ils allaient dominer, ils devaient démolir le vrai leader, Paul. Alors les Corinthiens voulaient savoir pourquoi Paul pensait qu'il était encore leur leader. Pourquoi Paul pensait qu'il devrait encore l'écouter. Regardez au chapitre 13, verset 3. C'est la clé de toute la section. En 13, verset 3, il dit, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, arrêtons-nous ici. » Il dit en d'autres termes, « Vous essayez d'obtenir de moi des preuves que j'ai le droit de vous parler, que je suis encore la voix de Dieu, que je suis encore l'apôtre de Dieu, que je suis encore le messager. Je vais vous le prouver. » Vous voyez, il disait, « Nous avons quelques nouveaux gars, et Paul mon vieux. Ils ont eu des visions. Oh oui, ils ont eu des expériences extatiques. Ils ont eu des révélations. Ils ont du charme et du charisme. Ils sont cool. Et ils sont les nouveaux apôtres. Et ils ont tout ce qu'il faut pour notre temps. Et Paul, nous nous demandons si tu n'es pas un peu démodé. » Alors il dit, « Ainsi vous cherchez une preuve que Christ parle encore par moi. Vous allez me comparer à eux. Et quels étaient leurs critères ? » Regardez au chapitre 12, verset 1. « Il faut me vanter, cela n'est pas utile, dit-il. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. » Il dit, « Voici, je sais ce que vous voulez. Vos critères sont des visions et des révélations. Très bien, je vais en parler. C'est votre truc. Les super-spirituels ont des révélations et des visions. Je vais en parler. » Ils étaient arrivés en ville et avaient parlé de leurs révélations. Mais savez-vous ce que Paul en disait en 11, verset 13 ? De tels hommes sont quoi ? Ils ne sont pas de super apôtres. Ils sont quoi ? De prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Ce ne sont pas des vrais. Ne soyez pas surpris. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc si ses ministres se déguisent en ministres de justice, ce n'est rien de surprenant. Ce ne sont pas de vrais apôtres. Ce sont des apôtres de Satan. Ils se recommandent eux-mêmes. Ils se sont proposés eux-mêmes. Alors, au chapitre 11, verset 5, Paul dit bien, « Or j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Il ne parle pas de Jacques, ou de Pierre, ou de Jean ici. Il parle de ces super apôtres, qui avaient ces visions et ces révélations et expériences mystiques. Il dit, « Voilà, je ne suis pas inférieur. Je ne me placerai pas à l'arrière pour eux. Ce sont de faux apôtres. Comment le savez-vous ? » Verset 4. « En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, quelque chose ne va pas avec lui. Leur doctrine n'est pas juste. Or, vous savez ce qu'il disait. Il disait, « Eh, Paul ne peut pas se mesurer à nous. » Maintenant, regardez au chapitre 10, verset 10. Il disait, « Ses lettres sont sévères et fortes. Oui, c'est un grand auteur, c'est du lourd. Mais quand il est présent, il est faible, et sa parole est méprisable. L'homme est laid, et sa parole ne vaut rien. Je veux dire, il écrit des choses fortes, mais il a l'air bizarre et ne parle pas clairement. Il ne fait pas le poids face à nos charismes et notre éloquence ou notre distinction. Pauvre cher Paul, il va lui falloir se défendre contre tous ces super-héros. Savez-vous pourquoi je vois un parallèle là-dedans avec aujourd'hui ? Tant de gens authentiques, réellement fidèles, passent complètement inaperçus, et ceux qui sont à la tête sont les grands, les superstars, et vous vous posez des questions. Donc Paul dit, « Et j'aimerais me comparer avec cela, avec les visions, les révélations, et ces belles et ensorcelantes choses, ces charismes. Je le voudrais vraiment. Pourrais-je vous parler de moi? Je vais vous donner mes références. Les voici. Êtes-vous prêts? Chapitre 11, verset 23. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Il est sarcastique. Les voilà mes références. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. En danger de la part des brigands. En danger de la part de mes compatriotes. En danger de la part des non-juifs. En danger dans les villes. En danger dans les déserts. En danger sur la mer. En danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et en plus, j'ai le souci de toutes les églises. Voici mes références. Et si vous voulez entendre quelque chose de mes grandes expériences exaltantes, que je vous les raconte. Une fois, il est dit au verset 32, j'ai été mis en prison par Aretas, le roi de Damas, et on a dû me faire descendre par la fenêtre dans un panier. J'ai pu m'enfuir. Donc, je vous donne une de mes références vraiment solides. J'étais comme un pauvre vieux fossile recroquevillé, dans un stupide petit panier, descendu par une fenêtre, courant pour ma vie. Quelle affaire, hein? Vous voyez, c'est un bon coup contre eux. Paul disait, « Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Votre orgueil stupide est une preuve suffisante que vous n'êtes pas les apôtres de Christ. Vous avez entendu parler des œuvres glorieuses des supers apôtres. Laissez-moi parler de moi. J'ai été descendu dans un panier, une fois où j'étais en prison, et j'ai dû fuir pour sauver ma vie. Quel bête témoignage est-ce là? Vous voyez, l'important pour Paul, c'est qu'il se glorifiait, non en sa force, mais en quoi? En sa faiblesse. Vous pouvez toujours distinguer un vrai apôtre de Christ, parce qu'il a cette attitude-là, et lorsque quelqu'un vient en se vantant de ses visions et de ses expériences, et dans les révélations, et toutes ces choses-là, vous pouvez les évacuer aux yeux de Paul. Donc, on dira, il leur a cloué le bec. Regardez au verset 1 du chapitre 12. Oh, il l'a fait, mais ça me plaît. Je voudrais que vous voyiez ceci. Il dit, eh bien, j'en viendrai à ces visions et à ces révélations. Je vais en dire quelques mots. Et j'aime ceci. Il dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. C'est formidable. Avez-vous compris de quoi il s'agit là? Il dit, oh oui, revenons à mes visions et révélations. Voyons, la dernière que j'ai eue date de 14 ans. Il y a 14 ans, Paul. Tu n'es pas un très bon charismatique. Tu devrais être frappé dans l'esprit toutes les semaines, mon vieux. Il y a 14 ans, Paul. Eh oui, et je ne me souviens même pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps. Je ne me souviens pas trop bien de l'événement. En fait, je ne sais pas ce qui se passait. Je me souviens seulement vaguement de ce qui est arrivé. Paul, aucun éditeur n'accepterait cela. Tu dois le rédiger très clairement, Paul. Si tu es allé au ciel et que tu en es revenu, tu sais comment c'est arrivé. Je crois que j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel dans cette affaire. Je ne sais pas si c'était réel ou non. Je pourrais avoir rêvé. C'était il y a si longtemps. La dernière fois, c'était il y a 14 ans. Il dit, en passant, j'aimerais abandonner cela de toute façon. Ce n'est pas intéressant du tout. Verset 5. Je me vanterai plutôt de quoi? De mes faiblesses. Oh, j'aime ça. N'est-ce pas fantastique? L'important n'est pas là. Je me glorifierai plutôt dans mes faiblesses. Laissez-moi vous parler des vraies références d'un apôtre, de peur que je ne sois élevé plus que nécessaire, à cause de ces révélations extraordinaires, juste pour s'assurer que je ne m'en vanterai jamais. Le Seigneur m'a mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir, et j'ai prié 3 fois que Dieu me l'enlève. Mais il ne l'a pas fait, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et volontiers, c'est pourquoi je me glorifierai plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, quoi? C'est alors que je suis fort. Vous voyez? Vous savez ce que Dieu veut aujourd'hui? Vous savez qui sont les vrais stars? Vous savez qui sont les gens vraiment spirituels? Ceux qui le manifestent dans l'humilité. Vous comprenez? Saviez-vous que Zacharie avait eu une vision au début de cette nuit-là, où il a eu ses visions, et 2 ans ont passé, avant que la voix de Dieu ne s'adresse de nouveau à lui? Et savez-vous qu'il y avait beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament qui ont entendu la voix de Dieu une seule fois de toute leur vie, et c'était lorsqu'ils ont reçu leur prophétie, puis jamais depuis. Ce n'est jamais la norme de Dieu pour vivre. Paul dit, « Ma vie fut faible et misérable, et désespérée et humble. Et j'étais dans la détresse du moment où je suis venu à Christ, jusqu'à ce qu'on m'ait coupé la tête. J'ai vécu dans la misère et le dénuement, et l'humilité et la douceur. Et c'était dans ces choses que Dieu pouvait être honoré. Donc voilà la vraie spiritualité, et on en a complètement tordu le sens. Dans Luc chapitre 5, notre cher Seigneur parle à Pierre, et il est dit au verset 8, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et le verset 11 dit, « Alors, ils laissèrent tout et quoi ? Le suivirent. » Savez-vous de quel genre de personne le Seigneur veut ? Des gens qui disent, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Vous voyez ça ? Ensuite, le Seigneur dit, « Et vous, voilà la personne que je veux utiliser. » Il est venu vers Ésaïe. Il a appelé Ésaïe. Ésaïe a dit, « Oh, je suis un homme aux lèvres impures. Ce n'est pas moi que tu veux. » Et cela a toujours été ainsi avec le choix que Dieu a fait de ses serviteurs. Ils n'avaient jamais une autre opinion d'eux-mêmes. Ils ne mettaient jamais une étiquette avec un prix sur eux-mêmes. Ils se voient tout petits et se voient impuissants et pécheurs, faibles et humbles. Walter Chantry disait, « Dans notre désir biblique de réveil, nous devons refuser de chercher une quelconque expérience qui propose d'éliminer notre faiblesse naturelle. Dieu n'a pas besoin de vos talents, de votre sagesse, sainteté ou force, mais c'est plutôt vous dans la faiblesse qui avez besoin désespérément de la puissance de son esprit dans votre labeur. Vous n'avez pas besoin d'être merveilleusement transformé par une seconde œuvre de grâce pour être un instrument adéquat de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur se plaît à exalter sa puissance pleine de grâce en utilisant de faibles instruments. Une vraie spiritualité, recevoir la parole, vivre dans la sainteté, manifester l'humilité. Écoutez, dans l'Église chrétienne, mettons de l'ordre dans tout cela. Certains diront, « Oh, depuis que j'ai eu mon expérience, je suis si heureux, si heureux. J'ai l'esprit. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais terminer par cela. Matthieu, chapitre 5, juste pour que vous ayez la parole directement de la bouche de Jésus. Matthieu 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Voyez le mot heureux ici. Ce sont les béatitudes, heureux. Vous voulez voir qui sont ces personnes heureuses ? Heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Verset 5. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont quoi ? Persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Qui sont les personnes réellement heureuses ? Je vais vous dire qui elles sont. Ce sont les humbles. Qui sont les humbles ? Ce sont les personnes saintes. Qui sont les personnes saintes ? Ce sont celles qui écoutent la parole de Dieu, et qui lui obéissent. Et en résumé, ce sont eux qui sont les spirituels. Et qu'il soit dit, mes amis, qu'il y a une norme de vraie spiritualité. Je suis si triste dans mon cœur que lorsque nous acceptons une norme contrefaite, nous nous appauvrissons parce que nous perdons la vraie norme. Mes amis, ne recherchez pas une expérience. Ne recherchez pas des visions. ne recherchez pas une révélation ou une proposition de ce genre. Vous rechercherez la sainteté, et cela suffira, et vous rechercherez dans la sainteté l'humilité, et Dieu vous élèvera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Prions. Notre Père, merci pour notre communion fraternelle aujourd'hui, de nous avoir parlé si précisément et directement. Et nous prions, Père, que nous puissions oublier ce qui est humain et nous rappeler dans nos cœurs ce qui vient de toi. Et nous demandons que tu veuilles bénir la parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.